Les touristes, il est vrai, ont découvert que les paysans ne s'intéressent pas aux paysages. Mais quand on partage avec des paysans des journées de travail épuisantes, ce qui est le seul procédé pour causer à cœur ouvert avec eux, on entend certains regretter que leur travail soit trop dur pour les laisser assez jouir des beautés de la nature. Bien entendu, augmenter la sensibilité à la beauté ne s'accomplit pas en disant « Regardez comme c'est beau !» C'est moins facile. Le mouvement qui s'est produit récemment dans les milieux cultivés vers le folklore devrait aider à restituer aux paysans le sentiment qu'ils sont chez eux dans la pensée humaine. Le système actuel consiste à leur présenter tout ce qui a rapport à la pensée comme une propriété exclusive des villes, dont on veut bien leur accorder une petite part, très petite, parce qu'ils n'ont pas la capacité d'en recevoir une grande. C'est la mentalité coloniale, à un degré seulement moins aigu. Et comme il arrive qu'un indigène des colonies, frotté d'un peu d'instruction européenne, méprise son peuple plus que ne ferait un Européen cultivé, il en est souvent de même pour un instituteur fils de paysan. La première condition d'un réenracinement moral de la paysannerie dans le pays, c'est que le métier d'instituteur rural soit quelque chose de distinct, de spécifique, dont la formation soit non seulement partiellement, mais totalement autre que celle d'un instituteur des villes. Il est absurde, au plus haut point, de fabriquer dans un même moule des instituteurs pour Belleville ou pour un petit village. C'est une des nombreuses absurdités d'une époque dont le caractère dominant est la bêtise. La deuxième condition est que les instituteurs ruraux connaissent les paysans et ne les méprisent pas, ce qu'on n'obtiendra pas simplement en les recrutant dans la paysannerie. Il faudrait donner une très large part dans l'enseignement qu'on leur fournit au folklore de tous les pays, présenté non comme un objet de curiosité, mais comme une grande chose. Leur parler de la part qu'ont eu les bergers dans les premières spéculations de la pensée humaine, celles sur les astres, et aussi, comme le montrent les comparaisons qui reviennent partout dans les textes antiques, celles sur le bien et le mal. Leur faire lire la littérature paysanne, Hésiode, Peer the Ploughman, les complaintes du Moyen-Âge, les quelques contemporains qui sont authentiquement paysans. Tout cela, bien entendu, sans préjudice de la culture générale. Après une telle préparation, on pourrait les envoyer servir un an comme domestiques de ferme, anonymement, dans un autre département, puis les rassembler de nouveau dans les écoles normales pour les aider à y voir clair dans leur propre expérience. De même pour les instituteurs des quartiers ouvriers et les usines. Seulement, de telles expériences doivent être moralement préparées. Autrement, elles suscitent le mépris et la répulsion au lieu de la compassion et de l'amour. Il serait bien avantageux aussi que les églises fassent de la condition de curé ou pasteur de village quelque chose de spécifique. C'est un scandale de voir combien, dans un village français entièrement catholique, la religion peut être absente de la vie quotidienne, réservée à quelques heures du dimanche, quand on songe avec quelle prédilection le Christ a emprunté le thème de ses paraboles à la vie des champs. Mais un grand nombre de ces paraboles ne figurent pas dans la liturgie, et celles qui y figurent ne provoquent aucune attention. De même que les étoiles et le soleil, dont parle l'instituteur, habitent dans les cahiers et les livres, et n'ont aucun rapport avec le ciel, de même la vigne, le blé, les brebis, dont il est fait mention le dimanche dans l'église, n'ont rien de commun avec la vigne, le blé, les brebis, qui se trouvent dans les champs et auxquels on donne tous les jours un peu de sa vie. Les paysans chrétiens sont déracinés aussi dans leur vie religieuse. L'idée de représenter un village sans église dans l'exposition de 1937 n'était pas aussi absurde que beaucoup l'ont dit. Comme les petits jossistes s'exaltent à la pensée du Christ ouvrier, les paysans devraient puiser la même fierté dans la part qu'accordent les paraboles de l'Évangile à la vie des champs et dans la fonction sacrée du pain et du vin, et en tirer le sentiment que le christianisme est une chose à eux. Les polémiques autour de la laïcité ont été une des principales sources d'empoisonnement de la vie paysanne en France. Malheureusement, elles ne sont pas près de finir. Il est impossible d'éviter de prendre position sur ce problème, et il semble d'abord presque impossible d'en trouver une qui ne soit pas très mauvaise. Il est certain que la neutralité est un mensonge. Le système laïque n'est pas neutre. Il communique aux enfants une philosophie qui est d'une part très supérieure à la religion genre Saint-Sulpice, d'autre part très inférieure au christianisme authentique. Mais celui-ci, aujourd'hui, est très rare. Beaucoup d'instituteurs portent à cette philosophie un attachement d'une ferveur religieuse. La liberté de l'enseignement n'est pas une solution. Le mot est vide de sens. La formation spirituelle d'un enfant n'appartient à personne, ni à l'enfant, puisqu'il n'est pas en mesure d'en disposer, ni aux parents, ni à l'État. Le droit des familles, invoqué si souvent, n'est qu'une machine de guerre. Un prêtre qui, ayant une occasion naturelle de le faire, s'abstiendrait de parler du Christ à un enfant de famille non chrétienne, serait un prêtre qui n'aurait guère de foi. Maintenir l'école laïque telle qu'elle, et permettre ou même favoriser, à côté, la concurrence de l'école confessionnelle, est une absurdité du point de vue théorique et du point de vue pratique. Les écoles privées, confessionnelles ou non, doivent être autorisées, non pas en vertu d'un principe de liberté, mais pour un motif d'utilité publique dans chaque cas particulier où l'école est bonne, et sous réserve d'un contrôle. Accorder au clergé une part dans l'enseignement public n'est pas une solution. Si c'était possible, ce ne serait pas désirable, et ce n'est pas possible en France sans guerre civile. Donner ordre aux instituteurs de parler de Dieu aux enfants, comme l'a fait quelques mois le gouvernement de Vichy, sur l'initiative de M. Chevalier, est une plaisanterie de très mauvais goût. Conserver à la philosophie laïque son statut officiel serait une mesure arbitraire, injuste en ce qu'elle ne répond pas à l'échelle des valeurs, et qui nous précipiterait tout droit dans le totalitarisme. Car, bien que la laïcité ait excité un certain degré de ferveur presque religieuse, c'est par la nature des choses un degré faible. Et nous vivons dans une époque d'enthousiasme chauffé à blanc. Le courant idolâtre du totalitarisme ne peut trouver d'obstacle que dans une vie spirituelle authentique. Si on habitue les enfants à ne pas penser à Dieu, ils deviendront fascistes ou communistes par besoin de se donner à quelque chose. On voit plus clairement ce que la justice exige en ce domaine quand on a remplacé la notion de droit par celle d'obligation liée aux besoins. Une âme jeune qui s'éveille à la pensée a besoin du trésor amassé par l'espèce humaine au cours des siècles. On fait tort à un enfant quand on l'élève dans un christianisme étroit qui l'empêche de jamais devenir capable de s'apercevoir qu'il y a des trésors d'or pur dans les civilisations non chrétiennes. L'éducation laïque fait aux enfants un tort plus grand. Elle dissimule ses trésors, et ceux du christianisme en plus. La seule attitude, à la fois légitime et pratiquement possible, que puisse avoir en France l'enseignement public à l'égard du christianisme, consiste à le regarder comme un trésor de la pensée humaine parmi tant d'autres. Il est absurde, au plus haut point, qu'un bachelier français ait pris connaissance de poèmes du Moyen-Âge, de Polyeucte, d'Athalie, de Phèdre, de Pascal, de Lamartine, de doctrines philosophiques imprégnées de christianisme, comme celle de Descartes et de Kant, de la Divine Comédie ou du Paradise Lost, et qu'il n'ait jamais ouvert la Bible. Il n'y aurait qu'à dire aux futurs instituteurs et aux futurs professeurs « La religion a eu, de tout temps et en tout pays, sauf tout récemment en quelques endroits de l'Europe, un rôle dominant dans le développement de la culture, de la pensée, de la civilisation humaine. Une instruction dans laquelle il n'est jamais question de religion est une absurdité. D'autre part, de même qu'en histoire on parle beaucoup de la France aux petits Français, il est naturel qu'étant en Europe, si on parle de religion, il s'agisse avant tout du christianisme. En conséquence, il faudrait inclure dans l'enseignement de tous les degrés, pour les enfants, déjà un peu grands, des cours qu'on pourrait étiqueter, par exemple, « histoire religieuse ». On ferait lire aux enfants des passages de l'Écriture, et par-dessus tout, l'Évangile. On commenterait dans l'esprit même du texte, comme il faut toujours faire. On parlerait du dogme comme d'une chose qui a joué un rôle de première importance dans nos pays, et à laquelle des hommes de toute première valeur ont cru de toute leur âme. On n'aurait pas non plus à dissimuler que quantité de cruauté y ont trouvé un prétexte. Mais surtout, on essaierait de rendre sensible aux enfants la beauté qui y est contenue. S'ils demandent « Est-ce vrai ?» il faut répondre « Cela est si beau que cela contient certainement beaucoup de vérité. Quant à savoir si c'est ou non absolument vrai, tâchez de devenir capable de vous en rendre compte quand vous serez grand. » Il serait rigoureusement interdit de rien inclure dans les commentaires qui impliquent la négation du dogme. Rien non plus qui implique une affirmation. Tout instituteur ou professeur qui le désirerait et qui aurait les connaissances et le talent pédagogique nécessaires serait libre de parler aux enfants non seulement du christianisme, mais aussi, quoique en insistant beaucoup moins, de n'importe quel autre courant de pensée religieuse authentique. Une pensée religieuse est authentique quand elle est universelle par son orientation. Entre parenthèses, ce n'est pas le cas du judaïsme qui est lié à une notion de race. Fermez la parenthèse. Si une telle solution était appliquée, la religion cesserait peu à peu, il faut l'espérer, d'être une chose pour ou contre laquelle on prend parti, de la même manière qu'on prend parti en politique. Ainsi s'aboliraient les deux camps, le camp de l'instituteur et le camp du curé, qui mettent une sorte de guerre civile latente dans tant de villages français. Le contact avec la beauté chrétienne, présentée simplement comme une beauté à savourer, imprégnerait insensiblement de spiritualité la masse du pays, si toutefois le pays en est capable, bien plus efficacement qu'aucun enseignement dogmatique des croyances religieuses. Le mot de beauté n'implique nullement qu'il faille considérer les choses religieuses à la manière des esthètes. Le point de vue des esthètes est sacrilège, non seulement en matière de religion, mais même en matière d'art. Il consiste à s'amuser avec la beauté en la manipulant et en la regardant. La beauté est quelque chose qui se mange. C'est une nourriture. Si l'on offrait au peuple la beauté chrétienne simplement à titre de beauté, ce devrait être comme une beauté qui nourrit. Dans l'école rurale, la lecture attentive, souvent répétée, souvent commentée, toujours reprise, des textes du Nouveau Testament où il est question de la vie rurale, pourrait faire beaucoup pour rendre à la vie des champs la poésie perdue. Si d'une part toute la vie spirituelle de l'âme, d'autre part toutes les connaissances scientifiques concernant l'univers matériel, sont orientées vers l'acte du travail, le travail tient sa juste place dans la pensée d'un homme. Au lieu d'être une espèce de prison, il est un contact avec ce monde et l'autre. Pourquoi, par exemple, un paysan en train de semer n'aurait-il pas présente au fond de sa pensée, sans parole même intérieure, d'une part quelques comparaisons du Christ, si le grain ne meurt, la semence est la parole de Dieu, le grain de sénévé est la plus petite des graines, d'autre part, le double mécanisme de la croissance, celui par lequel la graine, en se consommant elle-même et avec l'aide des bactéries, arrive à la surface du sol, celui par lequel l'énergie solaire descend dans la lumière et, captée par le ver de la tige, remonte dans un mouvement ascendant irrésistible. L'analogie qui fait des mécanismes d'ici-bas un miroir des mécanismes surnaturels, si l'on peut employer cette expression, devient alors éclatante. Et la fatigue du travail, selon le mot populaire, l'a fait entrer dans le corps. La peine, toujours plus ou moins liée à l'effort du travail, devient la douleur qui fait pénétrer au centre même de l'être humain la beauté du monde. Une méthode analogue peut charger d'une signification analogue le travail ouvrier. Elle est tout aussi facile à concevoir. Ainsi seulement, la dignité du travail serait pleinement fondée. Car en allant au fond des choses, il n'y a pas de véritable dignité qui n'ait une racine spirituelle et par suite d'ordre surnaturel. La tâche de l'école populaire est de donner au travail davantage de dignité en y infusant de la pensée, et non pas de faire du travailleur une chose à compartiment qui tantôt travaille et tantôt pense. Bien entendu, un paysan qui sème doit être attentif à répandre le grain comme il faut, et non à se souvenir de leçons apprises à l'école. Mais l'objet de l'attention n'est pas tout le contenu de la pensée. Une jeune femme heureuse, enceinte pour la première fois, qui coud une layette, pense à coudre comme il faut, mais elle n'oublie pas un instant l'enfant qu'elle porte en elle. Au même moment, quelque part dans un atelier de prison, une condamnée coud en pensant aussi à coudre comme il faut, car elle craint d'être punie. On pourrait imaginer que les deux femmes font au même instant le même ouvrage et ont l'attention occupée par la même difficulté technique. Il n'y en a pas moins un abîme de différence entre l'un et l'autre travail. Tout le problème social consiste à faire passer les travailleurs de l'une à l'autre de ces deux situations. Ce qu'il faudrait, c'est que ce monde et l'autre, dans leur double beauté, soient présents et associés à l'acte du travail, comme l'enfant qui va naître à la fabrication de la layette. Cette association peut s'opérer par une manière de présenter les pensées qui les mettent en rapport direct avec les gestes et les opérations particulières de chaque travail, par une assimilation assez profonde pour qu'elle pénètre dans la substance même de l'être et par une habitude imprimée dans la mémoire et liant ses pensées au mouvement du travail. Nous ne sommes pas aujourd'hui, ni intellectuellement ni spirituellement, capables d'une telle transformation. Ce serait beaucoup si nous étions capables de commencer à la préparer. Bien entendu, l'école n'y suffirait pas. Il faudrait que tous les milieux où subsiste quelque chose qui ressemble à de la pensée y participent. Les églises, les syndicats, les milieux littéraires et scientifiques. On ose à peine mentionner dans cette catégorie les milieux politiques. Notre époque a pour mission propre, pour vocation, la constitution d'une civilisation fondée sur la spiritualité du travail. Les pensées qui se rapportent au pressentiment de cette vocation et qui sont éparses chez Rousseau, George Sand, Tolstoï, Proudhon, Marx, dans les encycliques des papes et ailleurs, sont les seules pensées originales de notre temps, les seules que nous n'ayons pas empruntées aux Grecs. C'est parce que nous n'avons pas été à la hauteur de cette grande chose qui était en train d'être enfantée en nous que nous nous sommes jetés dans l'abîme des systèmes totalitaires. Mais si l'Allemagne est vaincue, peut-être que notre faillite n'est pas définitive. Peut-être avons-nous encore une occasion. On ne peut pas y penser sans angoisse. Si nous l'avons, médiocres comme nous sommes, comment ferons-nous pour ne pas la manquer ? Cette vocation est la seule chose assez grande pour la proposer au peuple au lieu de l'idole totalitaire. Si on ne la propose pas de manière à en faire sentir la grandeur, ils resteront sous l'emprise de l'idole. Elle sera seulement peinte en rouge au lieu de brun. Si on donne à choisir aux hommes entre le beurre et les canons, bien qu'ils préfèrent, et de très loin, le beurre, une fatalité mystérieuse les contraint malgré eux à choisir les canons. Le beurre manque par trop de poésie. Du moins lorsqu'on en a, car il prend une espèce de poésie quand on n'en a pas. La préférence qu'on a pour lui est inavouable. Actuellement, les Nations Unies, surtout l'Amérique, passent leur temps à dire aux populations affamées d'Europe « Avec nos canons, nous allons vous procurer du beurre ». Ceci ne provoque qu'une seule réaction, la pensée qu'ils ne se hâtent guère. Quand on donnera ce beurre, les gens se jetteront dessus. Et aussitôt après, ils se tourneront vers quiconque leur fera voir de jolis canons décemment enveloppés de n'importe quelle idéologie. Qu'on n'imagine pas qu'étant épuisés, ils ne demanderont que le bien-être. L'épuisement nerveux causé par un malheur récent empêche de s'installer dans le bien-être. Il contraint à chercher l'oubli, soit dans une soûlerie de jouissances exaspérées, comme ce fut le cas après 1918, soit dans quelque sombre fanatisme. Le malheur qui a mordu trop profondément suscite une disposition au malheur qui contraint à y précipiter soi-même et autrui. L'Allemagne en est un exemple. Les populations malheureuses du continent européen ont besoin de grandeur encore plus que de pain. Et il n'y a que deux espèces de grandeur. La grandeur authentique, qui est d'ordre spirituel, et le vieux mensonge de la conquête du monde. La conquête est l'ersatz de la grandeur. La forme contemporaine de la grandeur authentique, c'est une civilisation constituée par la spiritualité du travail. C'est une pensée qu'on peut lancer en avant sans risquer aucune désunion. Le mot de spiritualité n'implique aucune affiliation particulière. Les communistes eux-mêmes, dans l'atmosphère actuelle, ne le repousseraient sans doute pas. Il serait facile d'ailleurs de trouver dans Marx des citations qui se ramènent toutes aux reproches de manque de spiritualité adressés à la société capitaliste. Ce qui implique qu'il doit y en avoir dans la société nouvelle. Les conservateurs n'oseraient pas repousser cette formule. Les milieux radicaux, laïcs, francs-maçons, non plus. Les chrétiens s'en empareraient avec joie. Elle pourrait susciter l'unanimité. Mais on ne peut toucher à une telle formule qu'en tremblant. Comment y toucher ? Sans la souiller, sans en faire un mensonge. Notre époque est tellement empoisonnée de mensonges qu'elle change en mensonge tout ce qu'elle touche. et nous sommes de notre époque. Nous n'avons aucune raison de nous croire meilleurs qu'elle. Discréditer de tels mots en les lançant dans le domaine public sans des précautions infinies serait faire un mal irréparable. Ce serait tuer tout reste d'espoir que la chose correspondante puisse apparaître. Ils ne doivent pas être liés à une cause, à un mouvement, ni même à un régime, ni non plus à une nation. Il ne faut pas leur faire le mal que Pétain a fait aux mots « travail, famille, patrie », ni non plus le mal que la Troisième République a fait aux mots « liberté, égalité, fraternité ». Ils ne doivent pas être un mot d'ordre. Si on les propose publiquement, ce doit être seulement comme l'expression d'une pensée qui dépasse de très loin les hommes et les collectivités d'aujourd'hui et qu'on s'engage en toute humilité à garder présente à l'esprit comme guide en toute chose. Si cette modestie est moins puissante pour entraîner les masses que des attitudes plus vulgaires, peu importe. Il vaut mieux échouer que réussir à faire du mal. Mais cette pensée n'aurait pas besoin d'être lancée avec fracas pour imprégner peu à peu les esprits, parce qu'elle répond aux inquiétudes de tous dans le moment présent. Tout le monde répète, avec des termes légèrement différents, que nous souffrons d'un déséquilibre dû à un développement purement matériel de la technique. Le déséquilibre ne peut être réparé que par un développement spirituel dans le même domaine, c'est-à-dire dans le domaine du travail. La seule difficulté, c'est la méfiance douloureuse et malheureusement trop légitime des masses, qui regardent toute formule un peu élevée comme un piège dressé pour les duper. Une civilisation constituée par une spiritualité du travail serait le plus haut degré d'enracinement de l'homme dans l'univers, par suite l'opposé de l'état où nous sommes, qui consiste en un déracinement presque total. Elle est ainsi par nature l'aspiration qui correspond à notre souffrance.